Radio Okapi.
Oh, Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. D'abord, le sommaire de ce journal. La ministre d'État aux Affaires étrangères s'est dit consciente des grandes attentes des Congolais qui espèrent une mise en œuvre rapide de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, entériné hier à Washington par les deux présidents sous la médiation américaine. Mais elle précise que la paix est un processus qui se construit et qui demande souvent du temps. L'hôpital général de Samba dans le Maniema est en difficulté. Outre le manque des lits et des bâtiments adéquats, l'hôpital est privé de plusieurs services vitaux, notamment les unités de réanimation et d'imagerie, limitant ainsi sa capacité à fournir des soins complets à la population. Au moins 11 313 candidats ont pris part le 30 novembre dernier à l'épreuve écrite du recrutement de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA, dont 2715 femmes à travers le pays. Invité de Radio Okapi, le directeur général de cet établissement public, Tombola Mouké, explique que l'objectif est de rajeunir la fonction publique grâce à des recrutements fondés sur la méritocratie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. La ministre d'État aux Affaires étrangères s'est dit consciente des grandes attentes des Congolais qui espèrent une mise en œuvre rapide de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda entériné hier à Washington DC par les deux présidents sous la médiation américaine. Thérèse Kayikwamba Wagner l'a déclaré le même jeudi lors d'un briefing de presse organisé à Washington conjointement avec ses homologues de l'économie, de la communication et médias ainsi qu'avec les gouverneurs de la Banque centrale. Ces derniers intervenaient comme experts dans ces négociations au nom du gouvernement congolais. La ministre a précisé que la paix est un processus qui s'est construit et qui demande souvent du temps. On écoute Thérèse Kayikwamba Wagner au micro d'Alain Rung, envoyé spécial de Radio Okapi à Washington DC.
Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs, et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. Mais nous savons aussi que tout cela se fera de manière graduelle, que tous ces efforts devront être bâtis les uns sur les autres, pas seulement parce que nous le connaissons, nous le savons de notre propre région, mais nous l'avons aussi appris dans d'autres régions. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur.
Ici au pays, au Nord Kivu, les armes se taisent provisoirement ce vendredi sur la plupart des lignes de front. Cette accalmie intervient au lendemain de l'enterrement à Washington d'un ensemble d'accords entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ces engagements négociés depuis plusieurs mois avec l'appui des États-Unis et d'autres médiateurs suscite autant d'espoir que de doutes dans une région meurtrie par 4 années de guerre. Les détails avec vous, Richard Junior Kamunga.
Dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo ainsi qu'une partie de Walikale et Lubero, les acteurs locaux espèrent que ces engagements se traduiront rapidement par un cessez-le-feu effectif. Mais certains restent sceptiques. Selon eux, la présence renforcée des troupes sur les lignes de front et la méfiance persistante entre les belligérants laisse planer des incertitudes sur la mise en œuvre des accords. Tant que les troupes ne respectent pas réellement les cessez-le-feu, ces engagements resteront hypothétiques, confient certaines de ces sources locales. Elles déplorent en plus une crise humanitaire et toujours alarmante dans ces entités. Pour elles, en attendant des avancées concrètes, la population continue de payer les prix forts. La guerre menée par l'AFC M23 depuis 4 ans a provoqué des dégâts majeurs, une fracture détruite, millions de déplacés et des communautés entières déracinées dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.
La cité de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, est vidée de sa population depuis ce vendredi matin. Les sources en place estiment qu'environ 80% de la population se dirige vers Sangé et Uvira, plus au sud, avec l'intention de traverser jusqu'au Burundi. La population se déplace massivement de Luvungi pour se mettre à l'abri des obus tirés à partir de Kamanyola et Katogolta et qui tombent dans la cité de Luvungi. Trois personnes sont touchées, un vieillard, un enfant et une femme. La frontière burundaise de Rubenga, proche de la cité congolaise de Luvungi, a déjà été fermée, confirment les notables du milieu. Pour l'instant, les cités de Kamanyola et Katogota font l'objet d'intenses combats entre les belligérants. La FC-M23 renforce ses positions dans la partie nord et les FARDC font de même dans la partie sud. L'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 4 décembre 2025 est diversement interprété dans la province du Sud Kivu. Les uns restent sceptiques au regard des bruits de bottes qui continuent dans la région. Les troupes belligérantes renforcent les lignes de front en hommes et munitions au lendemain de l'accord. D'autres personnes espèrent que cet accord ouvre la paix dans la région des Grands Lacs. Écoutons ces vox pop recueillis dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Walungu, Uvira, Kabare, Kalehe et Shabunda par Jean Kassami.
En tout cas, c'est une distraction. On dit accord de paix, mais chez moi, quasiment maintenant, là, il est 9h25 dans le groupement de Bulumbwa, Kahungwe. Ce sont des lourdes détonations qui se font entendre ici et là. C'est une distraction notoire qui n'a rien pour la restauration de la paix à l'est de la RDC. Nous venions de perdre des dizaines de nos compatriotes paisibles citoyens qui venaient d'être massacrés.
Nous attendons maintenant ce qui va se passer en République démocratique du Congo parce que nous, la population, nous sommes là comme observateurs et voir si réellement tout ce qui a été signé entre les deux présidents a été respecté.
Historiquement, beaucoup d'accords internationaux ont été symboliques avant d'être suivis d'actions concrètes.
Nous saluons cet accord. Nous voulons que ça soit seulement réaliste. Ce qui nous fait inquiéter et que nous nous demandons est qu'ils n'ont pas prévu les sanctions par rapport à celui qui va aller à l'encontre de cet accord-là.
C'est vraiment un trompe-l'œil. C'est du folklore d'ailleurs. Sinon, si on se réfère rien qu'aux accords précédents qui ont été signés entre le Rwanda et la RDC, il y a lieu de dire que c'est du n'importe quoi. Ce sont des pièges qui ont été signés expressément.
Un gouffre de soulagement pour toute la population congolaise et celle de Shabunda. Néanmoins, nous devons observer cet accord se mettre en pratique sur le terrain.
Le Rwanda doit lever l'hypocrisie. Le président de la République démocratique du Congo lui a montré au monde entier qu'il veut la paix, rien que la paix.
Autre réaction, c'est celle de la MONUSCO. Elle salue l'entérinement de cet accord entre la RDC et le Rwanda. Elle rend hommage aux deux chefs d'État pour leur détermination politique en faveur de la paix et de la coopération régionale. Pour la mission onusienne, cet accord conjugué à celui de Doha entre la RDC et le M23 et à la résolution 2773 offre une opportunité de passer des conflits aux solutions politiques. Et pour elle, la mise en œuvre de ces textes dans le respect de l'intégrité territoriale de chaque État, avec un dialogue continu à l'interne, permettront de consolider la paix au profit des populations. On écoute la porte-parole de la mission onusienne, Kadi Lo, dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Massimango.
La MONUSCO considère que les accords conclus ouvrent une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rétablir la confiance entre les deux pays pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et contribuer à libérer le potentiel économique de l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ces accords, conjugués à l'accord cadre signé entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 et à la résolution 2713 du Conseil de sécurité, offrent une opportunité pour passer de la confrontation à des solutions politiques. Leur mise en œuvre de bonne foi et dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région sera essentielle pour parvenir à une paix durable. La MONUSCO souligne que ces efforts doivent favoriser la stabilité tout en garantissant la protection des civils et le respect des droits de l'homme. Un dialogue continu, des mesures de décrispation et des approches inclusives au niveau national et local seront déterminants pour instaurer la confiance, réduire les tensions et consolider la paix au bénéfice de toutes les communautés affectées par le conflit.
La MONUSCO salue par ailleurs l'engagement du Qatar, de l'Union africaine et d'autres organisations régionales dans ce processus. Elle les encourage à maintenir leurs appuis pour le retour de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. À Bunia, plusieurs coups de feu ont été entendus la nuit de mercredi à jeudi au quartier Bigot et à la bourgade de Koromojo dans la commune de Chari. Selon la police, il s'agissait d'hommes armés non identifiés qui ont volé la moto d'un taximène. La même nuit, des malfrats ont également cambriolé plusieurs maisons, dont celle d'un officier de la police nationale congolaise, absent des lieux. Le commandant ville de la PNC indique que l'intervention des patrouilleurs qui ont riposté en tirant plusieurs coups de feu a permis de limiter les dégâts. Le colonel Abé Limwanga appelle la population à plus de vigilance en cette période de fin d'année et à alerter à temps les services de sécurité. Il est au micro de Martial Kizabiamongu.
Il est à signaler que pendant leur fuite, les bandits ont abandonné une batterie, une manchette et une barre de mine. À noter que la situation sécuritaire dans les quartiers Bigo en particulier, et celle de la commune de Chari en général, nécessite une attention particulière des autorités. Surtout avec la présence de deux sites de déplacés, de l'ISP et celle de Kigonzi, hébergeant plusieurs chômeurs et quelques fumeurs de chanvre. Voilà pourquoi le commissariat urbain Bunia demande à toute la population d'être vigilante, de collaborer avec les autorités, de collaborer avec les services de sécurité, de dénoncer les inciviques et ennemis de la paix et de se désolidariser de quelques groupes armés réfractaires au processus de démobilisation.
Je le disais en titre, dans la province du Maniema, l'hôpital général de Samba, situé dans le territoire de Kasongo, est en difficulté. Il est confronté à un important déficit d'infrastructures et de services essentiels. Outre les manques de lits et de bâtiments adéquats, l'hôpital est privé de plusieurs services vitaux, notamment les unités de réanimation et d'imagerie, limitant ainsi sa capacité à fournir des soins complet à la population. Le docteur Cédric Mbayous, médecin directeur de cet établissement, lance l'alerte et appelle à l'aide pour remédier à cette situation. Il a été joint par Kawaya Masimango Kama.
Nous, à Samba, nous avons 46 lits pour l'hospitalisation de nos malades. Parfois, vous pouvez avoir 30 ou 40 malades hospitalisés. Il y a les malades qui prennent même leur matelas à la maison et viennent avec ça à l'hôpital. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a un besoin et des lits et des matelas dans notre hôpital. Nos bâtiments que nous avons, ce sont des petits bâtiments. Aucun bâtiment du gouvernement. Si nous regardons aussi les services que compte un hôpital général, ici chez nous, il y a manque peut-être de 3 ou 4 services. Il n'y a pas les services d'imagerie, il n'y a pas les services de réanimation, il n'y a pas les services de réadaptation. Même les services que nous avons aujourd'hui, ce sont des services vraiment leur capacité réduite.
Santé toujours. À Goma, les vies de plusieurs personnes vivant avec le VIH sont menacées par une rupture critique des stocks des médicaments indispensables à leur traitement. C'est l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec VIH UCOP+ qui tire la sonnette d'alarme. Cette pénurie met en péril la continuité des soins, augmentant non seulement les risques de mortalité, mais aussi celui de transmission du virus dans la communauté. Salisa Wadi fait le point.
La situation est particulièrement critique pour les personnes qui souffrent de la double infection, la tuberculose et le VIH. Ce sont elles, ces personnes adultes co-infectées, qui sont aujourd'hui les plus exposées. Jimmy Basila, responsable du suivi à l'UCOP+, ne cache pas son inquiétude. Pour lui, sans intervention rapide, la pénurie des médicaments risque de leur être fatale.
Il y a des ruptures des médicaments tels que les antituberculés pour les co-infectés. C'est une PVVH qui a à la fois la tuberculose et le virus du VIH. On risque d'enterrer beaucoup. Il y a aussi le manque de tests. Beaucoup de gens veulent faire le dépistage volontaire, mais il n'y a pas de tests à l'hôpital. il y a aussi les ARV pédiatriques.
Face à cette urgence, l'UCOP Plus demande aux acteurs intervenant dans ces secteurs de rendre les médicaments disponibles pour sauver les vies de ces personnes. Pour sa part, l'ONU-SIDA rappelle que dans les contextes actuels des crises des financements, les pays devraient s'impliquer davantage dans la lutte contre le VIH pour espérer mettre fin à l'épidémie du SIDA d'ici 2030. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Kananga, avant d'aller plus loin, la voie ferrée est menacée par un gigantesque ravin dans la commune de Lukonga, quartier Mabondo, localité Basongila. Le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga avait entamé les travaux sur ces ravins, mais ces travaux sont aux arrêts et les ravins progressent au jour le jour. La population riveraine sollicite des autorités politico-administratives une intervention urgente pour limiter les dangers. Détail dans ce reportage de André Katende Ngalamolome.
C'est depuis maintenant 6 mois que les travaux sur ces ravins sont aux arrêts. Luteke Kabongo, habitant du quartier Mabondo qui nous livre l'information, indique qu'à chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandit. Il est déjà à 2 mètres de la voie ferrée et risque de couper le chemin de fer ainsi que la nationale numéro 41 à 6 niveaux. Les ménages qui vivent à côté du ravin sont aussi en danger. Martine Tchiela, mère de 8 enfants, souligne qu'avec les pluies abondantes sur la ville, sa maison risque de tomber dans ces ravins. Elle en appelle à une intervention urgente des autorités.
À chaque tombée de pluie, les ravins s'agrandissent, surtout du côté où nous sommes. Un jour, la maison peut tomber dans les ravins et nous apporter les malheurs. Nous invitons les autorités à remblayer les ravins pour nous épargner du danger.
Du côté Purique, Solange Mwindia Aminata, spécialiste en communication, fait savoir que les travaux qui étaient amorcés sur ces ravins étaient conservatoires. Elle rassure de la reprise imminente des travaux de lutte anti-érosive par l'entreprise chinoise Chanafest qui est en train d'installer sa base vue. Kananga, André Katendengala Moulmé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Nigeria a envoyé un signal diplomatique fort en annonçant lundi 1er décembre avoir accordé l'asile politique à l'opposant bissau-guinéen Fernando Diaz qui a trouvé refuge au sein de l'ambassade du Nigeria en Guinée-Bissau. Cette annonce survient au moment où le pays le plus peuplé d'Afrique est la cible d'attaques répétées de la part des États-Unis et fait face à une situation sécuritaire inquiétante à domicile. Il s'agit d'une stratégie diplomatique du président nigérien Bola Tinubu qui se pose en défenseur de la démocratie dans la sous-région à un moment pourtant critique sur le plan intérieur.
L'invité.
Au moins 11 313 candidats ont pris part le 30 novembre dernier à l'épreuve écrite du recrutement de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA, dont 2 715 femmes à travers le pays. Invité des Radio Capi, le directeur général de cet établissement public, Tombola Mouquet, explique que l'objectif est de rajeunir la fonction publique grâce à des recrutements fondés sur la méritocratie. Il remercie le gouvernement pour avoir mobilisé les fonds ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réussite de cet examen national. Tombola Mouquet s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour cher Blaise.
Quelles sont vos impressions en ces jours où l'École nationale d'administration vient de lancer l'épreuve écrite du concours de recrutement de sa 10e promotion?
Je pense qu'il faut saluer l'effort qui a été fourni dans le cadre de l'organisation de cette épreuve écrite. C'est une logistique impressionnante. L'épreuve organisée au même moment à Kinshasa et dans tous les chefs-lieux de province, donc 25 chefs-lieux. Derrière, il y a des moyens financiers, derrière, il y a une volonté politique. Donc je voudrais commencer par souligner la volonté politique qui a présidé à l'effectivité du lancement de l'épreuve écrite du concours de recrutement de la 10e promotion de l'ENA. RDC, en particulier la volonté de la plus haute autorité, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ensuite du gouvernement à travers Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, ministre de la Fonction Publique. Il faut saluer l'effort parce qu'en dépit du contexte institutionnel qui est difficile, du contexte des finances publiques qui est difficile aussi, mais le gouvernement a tenu bon. Après un report, parce qu'initialement l'épreuve écrite devait être organisée en septembre, mais finalement Tout a été mis en œuvre en termes de moyens financiers, de moyens logistiques, des moyens humains pour que cette épreuve écrite s'organise aujourd'hui. Et donc,
combien de candidats au total prennent part à cet examen ?
11 313 exactement sur l'ensemble du territoire national. On avait reçu 22 426 candidatures au total après traitement, donc après avoir appliqué les critères qui étaient communiqués aux candidats. 11 313 ont été retenus, dont 24% de femmes, dont une grande majorité à Kinshasa. Kinshasa, c'est quand même 7274 candidats qui sont répartis sur deux sites, comme vous l'avez vu ici à l'UPC. Ils sont dans 25 salles. Puis la Haute École de Commerce, ex-IEC, où nous avons 35 salles. Donc au total, 60 salles seulement pour la ville de Kinshasa. Puis les autres sont répartis sur l'ensemble du territoire national.
À quand la prochaine étape, l'étape de l'examen oral?
En tout cas, tout est mis en œuvre pour que le processus se termine en fin janvier, de sorte que la nouvelle promotion commence la scolarité en février. Et on va s'y tenir. Après l'épreuve écrite, c'est l'épreuve orale. Évidemment, il y a une période de correction. La correction prendra quelques semaines. Les candidats qui seront retenus à l'issue de cette étape seront convoqués pour l'épreuve orale. Il y aura un jury oral. Et après, il y aura une cérémonie d'entrée, une cérémonie couplée, sortie de la 9e promotion qui a terminé, puis entrée de la 10e, qui habituellement est présidée par la plus haute autorité du pays, viendra la scolarité, début de la scolarité.
Comment réagissez-vous par rapport à certains experts qui estiment qu'il faut revoir à la hausse les nombres des candidats à retenir pour une année à l'ENA?
Je pense que cela dépend du patron de ressources humaines, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, on va dire du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit exprimer les besoins, qui définit le nombre de places. Et puis en fonction de ce nombre de places, nous on organise le recrutement. Ça c'est d'une part. D'autre part, il y a nous aussi comme ENA qui devons nous mettre à l'échelle en termes de capacité d'accueil. Ces deux conditions mises ensemble devraient permettre prochainement d'accueillir un peu plus que 100 si tels étaient les besoins du gouvernement.
Avez-vous un petit message à lancer d'abord aux candidats, à tous ceux qui prennent part à cette épreuve?
Bon, alors le personnel d'appoint, le personnel qui est en charge de la supervision, de la coordination, abat un travail difficile. Il faut saluer le travail qu'ils font. Donc je voudrais ici leur exprimer mes mots de félicitations, parce que visiblement, comme vous l'avez constaté, l'épreuve écrite s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Vous avez pu l'observer, les carnets d'examen portaient déjà le nom des candidats. Ça, c'est aussi grâce à l'application mobile qu'on a lancée récemment, MyENA, qui a permis de dématérialiser le processus. C'est un processus très transparent. Je pense que l'autorité l'a expliqué ici. Le processus de correction est transparent, objectif, rigoureux, en double aveugle.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
Merci.
C'était notre invité, le directeur général de l'ENA, Tombola Mouké, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal de la mi-journée, qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Richard Junior Kamunga et mise en onde par Jean-Claude Nsala Mwanama Kengontswalu. Ce journal est à suivre sur toutes les plateformes digitales de la Radio de la Paix ainsi que sur son site internet www.radiocapi.net.